Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. La reine, l'émission d'information locale de Canal B s'apprête à commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour. Rennes Métropole cherche des projets agricoles en bio pour les accompagner. Deux reportages, d'abord à la ferme des Biscornus à Gauvin pour annoncer la fête du lait bio. Puis on vous donne envie d'aller voir l'expo et le concert de l'asso iranienne Gilar. Il y aura de la musique, dont une nouveauté. Et puis une double recommandation, manifestation travail et fête de la paresse demain 1er mai. Bienvenue dans la reine. Et c'est parti, on commence l'émission d'information locale comme chaque jour avec une info que je choisis pour vous parmi ce qui se raconte dans l'actualité locale. Aujourd'hui, on relaie l'appel à projet de Rennes Métropole qui cherche des candidats à l'installation agricole en bio sur le territoire. Cette initiative, elle s'inscrit dans le plan d'action Agir sur toute la chaîne alimentaire. Il a été adopté en septembre dernier par le Conseil métropolitain et parmi les engagements figure celui de maintenir une activité agricole rémunératrice et protectrice de l'environnement dans la région rennaise. Différentes parcelles de 2 à 20 hectares sont disponibles du côté de Laillé, Bru et Bourbaret, et plusieurs activités agricoles y seront possibles: élevage, arboriculture, maraîchage ou encore pâturage. Un appel à manifestation d'intérêt, là dont on parle, et qui est amené à durer avec une mise à jour régulière des terrains disponibles. Le détail est à retrouver en ligne sur metropole.rennes.fr. Et parce que l'installation agricole peut être un processus long et coûteux, un dispositif de prêt d'honneur local a été mis en place. L'objectif, c'est de renforcer les fonds propres des porteurs de projets, mais aussi de faciliter l'accès aux prêts bancaires. 5000 euros supplémentaires sont par ailleurs prévus pour les projets en agriculture biologique. Un secteur, celui de l'agriculture bio, qui souffre d'une baisse de la consommation depuis 2021 et pour lequel l'État, la région et le département ont mis en place d'autres dispositifs d'accompagnement. Allez, après cette info du jour, on continue avec un premier reportage. Et on annonce la 20e fête du lait bio en Ille-et-Vilaine, un événement qui aura lieu dans 7 fermes du département dimanche 2 juin. Et piloté par Agrobio 35, c'est le groupement des agriculteurs bio d'Ille-et-Vilaine. Le temps fort, c'est toujours un petit déjeuner avec sur la table du bon lait, du bon beurre. Les réservations ont lieu dès maintenant sur le site fete-du-lait-bio.fr. Il y aura aussi plein d'animations à vivre toute la journée, aperçues avec un reportage pour lequel j'ai assuré la prise de son et monté par Ambre, notre stagiaire venue de la Skol Radio pour un mois à Canal B.
Je suis Éline Lambert et je travaille à Agrobio 35. C'est le groupement des agriculteurs et agricultrices bio d'Ille-et-Vilaine. On est une association syndicale qui regroupe 500 adhérents et adhérentes sur le département. Et notre objectif, c'est d'aider le développement de la bio. Donc on accompagne nos agriculteurs et agricultrices techniquement sur leur performance sociale, environnementale, économique. Et on a aussi toute une partie sur l'aval, donc la commercialisation, avant ça la transformation et le contact avec les consommateurs et consommatrices.
Peut-être dire un mot, on sait que l'agriculture biologique a traversé une crise un peu dans le prolongement de la crise du Covid. Est-ce que ça a impacté votre façon d'accompagner les agriculteurs aujourd'hui avec peut-être des difficultés particulières ?
Depuis justement cette crise, on a plus développé la partie sensibilisation du consommateur pour essayer de relancer cette demande qui est en berne. On a aussi des actions auprès du gouvernement. Donc assez récemment, on a fait une action pour demander les paiements de la PAC qui ont énormément de retard. Donc voilà, dans ce contexte de crise, c'est ce genre de choses qui vont évoluer.
J'ai aussi vu passer un peu une mission plaidoyer, notamment sur l'agriculture biologique et le chauffage des serres. Il y a des sujets comme ça qui vous amènent à vous exprimer publiquement, quoi.
Oui, on vient de clôturer une campagne, notre deuxième campagne contre les serres chauffées. Donc il y a des serres chauffées qui sont autorisées dans une certaine mesure en bio. Au début, notre positionnement, c'était d'attaquer ces serres qui sont autorisées dans une certaine mesure en bio parce qu'on estime qu'elles font du préjudice à l'image du bio. Pour nous, le bio, c'est sans serres chauffées. Et donc ça, c'était l'année dernière, la première campagne. Cette année, on a refait une campagne et cette fois, on montre qu'on est contre les serres chauffées de manière générale. Et on se permet maintenant d'aller aussi sur le terrain du conventionnel et d'attaquer aussi les serres chauffées du milieu de l'agriculture conventionnelle. On a aussi tout un pôle depuis quelques années maintenant sur la place des femmes en agriculture qu'on cherche à améliorer. Et Agrobio, par rapport à d'autres groupements comme nous en France, se distingue sur ce volet-là. Ça va être des formations en non-mixité pour permettre de monter en compétence sur des sujets où on peut prendre du retard en tant que femme. Ça va aussi être des groupes d'échange entre paysannes sur des localités précises. Ça va aussi être des diagnostics égalité sur les fermes qu'on fait à la demande des fermes pour évaluer comment sont réparties les tâches, comment sont prises les décisions, etc. et aider les fermes à aller vers plus d'égalité.
Tambouille ! Komar !
Mathilde Mendes Del Villar, je suis étudiante à l'Université de Rennes en master gestion de l'environnement et je suis en stage pour 6 mois avec Agrobio 35 et je suis en charge d'organiser la fête du lait. C'est un moment convivial où les fermes sont ouvertes et c'est un moment aussi pour reconnecter les professions agricoles et le public parce que souvent c'est des fermes qui au début la fête du lait c'était vraiment sur des fermes qui étaient en filière longue donc les gens en fait ne voyaient juste les produits à la fin au supermarché, savaient pas d'où ça venait donc le but c'était un peu de reconnecter en fait ce monde là, de se dire bah en fait à côté de chez moi je passe tous les jours et je m'arrête jamais mais il y a une ferme. Donc c'était aussi d'offrir de la visibilité et puis là depuis peu la fête du lait c'est plus avec des gens qui sont en circuit court, même en vente directe. Donc il y a moins cette fracture là de manque de contact, mais c'est plus aussi pour rendre visible le travail vraiment qu'est d'être dans l'agriculture biologique. Et aussi un peu cette année la tendance était à la juste rémunération du bio, donc voir qu'est-ce que c'est que de manger bio, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, des gens qui travaillent et tout le travail qu'il y avait derrière.
C'est la 20e édition qui va donc se dérouler au mois de juin. À quoi elle va ressembler ?
En Ille-et-Vilaine, il y en aura 7 cette année, réparties uniformément sur tout le territoire. Donc ça couvre à peu près toute l'Ille-et-Vilaine. Ça sera donc un mouvement convivial, toujours avec les traditionnels petits déjeuners, mais aussi avec des animations tout au long de la journée pour certaines fermes.
Donc l'idée pour que les auditeurs se représentent, c'est on vient, on peut même emprunter, voire acheter son bol et on prend son petit déjeuner sur des grandes tablées. C'est le moment de réserver en ce moment sa place.
Oui, vous pouvez réserver du coup votre petit déjeuner en ligne sur la billetterie sur Yourplan. Vous n'avez qu'à taper « Fête du lait, Ille-et-Vilaine ». Et là, vous avez plusieurs tarifs. On a aussi des places en tarif réduit parce qu'on veut que cet événement reste un événement ouvert à tous. Et vous pouvez réserver jusqu'au samedi 1er juin à 14h.
Et les tarifs, du coup, ça va de 7 à 10 euros. C'est pas qu'un petit déjeuner à la ferme, c'est aussi plein d'animations. Selon les fermes, c'est à la demi-journée, voire à la journée, je crois, c'est ça ?
Alors, sur les tarifs, le plein tarif, on est à 7 euros. Et c'est 10 euros, c'est pour la consigne, parce qu'en fait, la consigne est comprise, qu'on vous rendra à la fin de quand vous repartirez, ou cette consigne, en fait, c'est l'équivalent du bol. Donc, vous pouvez repartir aussi avec votre bol. Les animations sont toute la journée. Donc le matin, il y a la traditionnelle visite de ferme et traite ouverte. Donc c'est pour ça que sur certaines fermes, c'est dès 8h30. D'autres, c'est aux alentours de 9h pour prendre son petit déjeuner. Mais certains commencent un peu avant justement pour assister à la traite. Il y a vraiment cette année beaucoup d'imagination. Il y a balade en calèche, l'autobus, des concerts, des jeux en bois pour les petits. Il y a des fresques, dessine-moi un ton bocage, des contes, donc il y a vraiment pour tous, quoi. Et aussi, certains mettent en place des buvettes et aussi une restauration du midi en complément des petits déjeuners, ou quand ça se poursuit en fait sur toute la journée, donc avec des galettes saucisses, food truck.
Pour la région rennaise, il se passe notamment des choses du côté de Piré, d'Assigné et de Plélan-le-Grand pour ce qui est le plus près de Rennes, en plus de la ferme qu'on va présenter dans un instant. Est-ce que vous savez combien de personnes viennent chaque année à la fête du lait ?
L'année dernière, on avait 800 petits déjeuners et à peu près 1500 personnes qui étaient venues. Et cette année, on a ouvert la réservation à environ 1000 petits déjeuners et on attend du coup en conséquence 1500, peut-être 2000 personnes. Il faut venir.
Kevin Sadoc, je suis agriculteur sur la ferme Les Biscornus à Gauvin avec Germain Marteau. C'est une ferme qu'on a achetée il y a un an maintenant, où on avait travaillé quasiment deux ans avant sur cette ferme-là. Ça a été un coup de cœur, on s'y est installé, on est en train de la peaufiner à notre image. On est deux, donc Germain et moi, voilà, on travaille tous les deux sur la ferme. Alors on est tous les deux issus du monde agricole. Germain, ses parents se sont installés en vache laitière en Mayenne. Et moi, mes parents étaient éleveurs de chevaux et de brebis à viande dans les marais du Cotentin.
On y trouve quoi sur cette ferme ?
Alors, on y trouve des vaches laitières, en majorité des jerseyaises. Voilà, une race qu'on a fait venir, parce qu'avant c'était un troupeau mix, parce qu'on souhaite vendre du lait avec une grande matière grasse. Donc les jerseyaises répondent tout à fait à ce qu'on cherche en tout cas. On trouvera aussi des poules. On a un atelier poules pondeuses avec plusieurs races de poules. Des poules qui viennent de partout et qui nous font des œufs blancs, des œufs bleus, des œufs bruns. Voilà, il y a un petit peu toutes les couleurs. Et des brebis. Donc surtout des manèches tête rousse, des brebis qui viennent du Pays Basque.
Ok. Ouais. Ah oui, donc il y a des animaux des quatre coins de France.
Il y a un petit peu de tout. Et 14 oies.
Et 14 oies. Comment vous avez pensé la commercialisation du lait que vous produisez, des œufs que vous produisez
Alors aujourd'hui, le lait est vendu à la laiterie Olga, qu'il transforme surtout donc, en beurre, en crème, en yaourt aussi. Une partie du lait est vendue en lait cru à notre marché bio, qui se fait tous les mercredis de 17h à 18h30.
Sur la ferme ?
Sur la ferme. Et les œufs sont vendus 100% sur place.
Ok. Voilà. Comme vous êtes au moment de l'installation, ça fait un an que vous installez, vous êtes encore dans une période de travaux, dans une période qui n'est pas facile, quand on voit la crise que traverse le secteur de l'agriculture biologique, comment est-ce que vous la vivez, cette installation ?
Je pense qu'on la vit plutôt bien. En ce qui concerne le prix du litre de lait, on n'a pas à se plaindre, on a une laiterie familiale assez petite et qui valorise très bien le lait, donc par rapport à d'autres, on est quand même moins à plaindre. Après, le marché bio qu'on fait sur place nous aide beaucoup. La vente directe, je pense que c'est l'avenir de l'agriculture biologique, en tout cas pour mettre en valeur les produits et surtout les vendre au bon prix. Pas trop cher pour le consommateur, mais en tout cas donner des revenus confortables aux agriculteurs.
Et comment vous décririez, je sais pas moi, les relations qui peuvent se tisser du coup avec les habitants du secteur qui viennent à votre marché ? Il y a des liens qui se tissent de semaine en semaine, vous revoyez les mêmes revenir ?
Alors dans notre cas en tout cas, oui, on a beaucoup d'habitués maintenant en tout cas, en très peu de temps. C'était une vraie demande de la population. Dès qu'on a commencé à ouvrir, on a eu tout de suite beaucoup de monde et on a senti qu'ils en avaient besoin en tout cas.
Pourquoi voilà. L'agriculture biologique ? Ça a été quoi votre réflexion là-dessus ?
Parce qu'on ne sait pas faire autrement, tout simplement. Germain, ses parents étaient en vache laitière bio, ouais. Et mes parents également, en tout cas pour les brebis. Voilà, quand je dis on ne sait pas faire autrement, parce qu'on a été élevé dedans en tout cas, et c'est bon pour la planète, c'est bon pour les animaux et c'est bon pour nous donc.
Certains disent que c'est porteur de contraintes, vous ne le vivez pas comme ça ?
Non, pour nous ce n'est pas une contrainte, c'est naturel. Justement, on n'a pas de contraintes parce qu'on n'a pas les lobbies de certains produits à mettre. On produit peut-être moins, mais en tout cas, on produit correctement et avec moins de dépenses à l'extérieur.
Les rendements, ils sont vraiment moins importants que si vous n'étiez pas en agriculture bio ?
Si on fait une moyenne, on est à 50% en dessous.
Ah ouais, ok. Et ça se retrouve avec le prix du litre de lait
Pas forcément pour tout le monde, en tout cas. Malheureusement, il y en a qui produisent moins et qui vendent moins cher que le conventionnel. Mais on ne peut pas avoir de la qualité à n'importe quel prix. Et ça, il faut que le consommateur commence à le comprendre, en tout cas.
C'est votre première participation à la fête du lait cette année ?
Oui, c'est notre première participation. On souhaitait faire une participation à la fête du lait cette année parce que la première fête du lait, il y a 20 ans, s'est faite sur cette ferme.
Donc c'est un clin d'œil, quoi.
Voilà, complètement.
Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour dimanche 2 juin ?
Alors, le petit déjeuner à la ferme, bien entendu. Une visite de la ferme. Bien sûr, il y aura tous les animaux. Un marché bio, local. Tous les agriculteurs du coin qui viendront vendre leur production. On trouvera des œufs, de la viande de volaille, un maraîcher, du pain, de la farine et bien d'autres choses. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui.
Et pour le menu du petit déjeuner, vous savez déjà ce qu'il y aura ?
Il y aura beaucoup de choses, des produits laitiers, des céréales, jus de fruits, café, cacao. Donc le petit déjeuner sera de 9h30 à 11h30, mais la ferme sera ouverte jusqu'à 17h.
Avec aussi une visite guidée sur la thématique des arbres et des oiseaux l'après-midi.
Komar !
Depression.
Joy Herria avec le morceau Wild Joy sur Canal B. C'est un titre qui a été repéré par Yann, programmateur musical à la radio, et qu'on peut retrouver sur un album FIM. C'est sorti en 2022. Et vous retrouverez ce projet qui est mené par un Britannique très bientôt à Rennes sur la scène du Pipala Pop Festival. Ça se passe au Jardin Moderne les 7 et 8 juin. Et c'est un événement qui est organisé par l'association des Pichikai, dont certains membres se cachent dans la radio Canal B. Allez, la Rennes, l'émission d'info locale se poursuit avec maintenant un deuxième reportage. Et on part à la MIR, la Maison Internationale de Rennes, qui accueille depuis hier et jusqu'à vendredi une exposition. L'association culturelle iranienne Gilar emmène cette fois le spectateur à la découverte des rituels spectaculaires de festivités des peuples iraniens. Un concert est par ailleurs prévu pour clore l'exposition vendredi 3 mai en soirée et ce sera en compagnie de deux maîtres de la musique iranienne. Plus d'infos sur la page Facebook de l'association Gilar, G-U-I-L-A-R-T.
Man, c'est pas ça, j'aime bien ça. Je m'appelle Sepa Sardanovi, je suis ça la mère, j'ai 23 ans, je suis seul à ce que d'âge, rien de ça qui me connaît. Et ça fait 6 ans que j'habite à Rennes. Je suis le représentant de l'association Gilar. Gilar à la base était une association avec unité familiale. Parce que la famille Sardanovi, on a pas mal fait des actes culturels déjà en Iran, malgré toutes ces répressions, toutes ces complicités. Quand j'étais adolescent, parce que là j'ai 23 ans, mais quand j'étais adolescent, je me souviens que mon père, il organisait un grand festival pour les mineurs, pour la musique classique iranienne, ce qui était très unique à l'époque. Et c'était une question d'éducation pour les mineurs, parce que c'est eux qui sont la prochaine génération. Et donc, on avait une société qui ressemblait un peu à notre association ici, avec qui on organisait beaucoup de concerts, festivals, expos, on publiait des livres, des CD, tout ça. Et là, on est venu en France, on s'est dit, bah, peut-être vaudra mieux ramener notre expérience d'avant et continuer ici ces actes culturels pour présenter la culture iranienne à des Français, parce que c'est un peu différent de ce qu'on voit dans les médias.
Il faut dire que donc vous êtes arrivé en tant qu'étudiant en musique en 2018.
En fait, d'abord, je voulais aller en Autriche, parce que je voulais faire de la musique classique. Là, je ne veux plus faire de la musique classique. Depuis que je suis venu en France, je suis beaucoup plus intéressé à jazz, à musique orientale. Parce que quand on s'émigre, on revient plus vers nos origines, vers nos racines, pour chercher d'où on vient. Surtout quand on vient dans un âge adolescent, ça, c'est un peu moins habitué, hein, parce que notre personnage n'est pas totalement formé, ni là-bas, ni ici. Du coup, des fois, on vient un peu à l'origine pour ces questions qu'on se pose. Et en effet, moi, je suis venu à l'âge de 17, en 2018, pour faire mon bac, d'abord, parce que j'avais pas le bac. Ensuite, j'ai enchaîné avec une licence en musicologie à Rennes 2. Et là, depuis septembre dernier, j'ai arrêté les études. Au moins pour un an, je vais peut-être reprendre un master plus tard. Mais l'idée pour moi, c'était de travailler un peu plus cette année, de présenter ces projets avec Gilar, ainsi que faire mes actes musicaux, mes concerts, mes créations à côté. Parce que finalement, à la base, je suis musicien, pianiste et compositeur. Donc, il faut alterner entre tout ça. Et finalement, tout vient d'un même point, c'est l'art et c'est de la culture. Cette année, on est content de présenter la troisième édition de nos expositions photographiques. La première année, c'était sur le thème « Les femmes, les tenues et les régions en Iran ». La deuxième année, c'était sur la musique dans la vie des ethnies iraniennes. Et cette année, on est content de présenter l'exposition des rituels spectaculaires de festivités dans la vie des iraniennes. Le vernissage était hier soir. C'était assez nombreux. Il y avait pas mal des gens qui ont passé, qui ont apprécié cette exposition, qui n'avaient pas vraiment l'habitude de voir. Il y avait même des Kurdes, même des gens qui venaient des ethnies différentes, qui habitent en Iran. Et c'était vraiment chouette. Et cette exposition est accessible jusqu'à vendredi soir.
Est-ce qu'il y aurait une photo qui vous marque plus que les autres parmi celles qui sont
trouvées ? Oui, moi j'aime bien les photos qui viennent de Kurdistan parce que j'aime bien leur tenue, leurs événements culturels. Il y a celle-là et il y a une autre aussi qui est là-bas que j'adore. C'est celui-là. Chaque photo dans notre exposition, ensuite il y a une carte sur laquelle vous avez des explications. Ainsi que des fois, vous avez des QR codes. Parce que certaines photos, on dessine. Donc, en scannant le QR code, on peut écouter ce qui est en train de se passer sur cette photo-là. Et cette photo, en fait, présente les filles kurdes qui se ressemblent chaque année selon la tradition pour marquer la paix et l'amitié en se tenant les mains. Et pour moi, en fait, c'est très symbolique et c'est pour ça que j'adore cette photo.
Elle célèbre le nouvel an ancien et le début du printemps avec des danses et des chants joyeux typiquement kurdes. Et puis au centre de l'image, on a une femme. La foule à l'arrière est un peu plus floue, mais on a une femme qui est nette à l'avant.
Les femmes en flux, elles sont en train de danser.
Et celle qui est devant a une robe rouge et des longs cheveux bruns qui tombent sur ses épaules.
Pour moi, c'est un symbole d'être libre. Moi, j'adore ça. Comme on voit dans les titres de chaque exposition, on est pas mal sensible à des questions des ethnies parce que la vie urbaine d'Iran, on peut la voir un peu partout dans les médias ou quoi que ce soit, mais ce qu'on a beaucoup moins d'informations dessous, c'est les ethnies. Et en Iran, il y a beaucoup, beaucoup d'ethnies qui sont en train de vivre ensemble, comme les Kurdes, comme les Turcs, comme les Gilaks, comme les Khuzestanis, ou n'importe quelle ethnie. Et cette année, on a reçu 300 photos, parmi lesquelles on a choisi 30, des grands photographes iraniens. Et parmi eux, il y a certains qui sont plus connus, qui ont l'habitude d'être exposés à l'étranger, comme Merdad Özkuy, qui est un grand documentariste, photographe iranien avec qui on a eu l'occasion d'être à Canal B l'année dernière. Où il y a des photographes qui ont moins d'habitude d'être exposés. Et là, c'est une opportunité parce que pour nous, le but, c'est de faire exposer les photographes vivants. Donc là, c'est une opportunité pour eux aussi, afin d'être exposés en France ou ailleurs.
Est-ce qu'il y a des temps forts qui réunissent ces différentes cultures dans l'année en termes de festivités ?
Par exemple, oui, le nouvel an iranien, qui est le 21 mars de chaque année, et c'est quelque chose qu'on fête tous, ou par exemple la soirée de Yalda, qui est à l'occasion de ce solstice d'hiver. Il y a des points communs entre toutes les ethnies, mais chaque ethnie aussi a ses propres rituels et spectaculaires de festivité. La religion, à la base, on a une religion qui vient de Perse antique, qui était Zarathustra, Ian, Zarathustri. Ça, c'était la religion de la base de l'Iran, mais après venu de l'islam et le transfert de l'islam un peu partout dans le monde entier, ça a commencé à avoir des religions différentes en Iran. Donc là, je pense que la plupart des Iraniens sont des chiites, qui est un des sources de l'islam. Mais il y a des sunnites aussi, je pense, surtout chez Kurdes, sud de l'Est d'Iran aussi. En tout cas, l'Iran n'est pas un pays où laïcité, ça existe. Donc, même dans le papier, il faut avoir...
Sur le papier, tout le monde a une religion.
C'est ça. Il y a des chrétiennes aussi, parce qu'il y a pas mal de gens avec origine d'Arménie qui habitent toujours en Iran. Avant la République islamique, il y avait pas mal de juifs. Et même aujourd'hui, les juifs iraniens, ils sont un peu partout dans le monde entier. Et donc, au niveau de langue...
C'est riche aussi.
C'est très riche. Parce qu'il y a beaucoup de langues vivantes dans ce pays-là. La langue officielle, c'est Farsi, persan. Mais chez les Kurdes, ils parlent kurde. Chez les Turcs, ils parlent turc. Chez les Turkmènes, ils parlent turkmène. Chez les Azeris, ils parlent Azeri. Chez les Gilles, ils parlent Gilaki. Et même, par exemple, en Guilan, il y a une autre langue, Taleshi, que les gens qui viennent de cette partie de Guilan, ils parlent. Au sud, on a pas mal des Arabes iraniens. Donc, ils parlent arabe, un sort d'arabe entre eux. Et finalement, c'est un pays très multiculturel.
Vous habitiez où en Iran ?
Moi, je suis de Téhéran. J'en suis pas très fier. J'aimais bien venir d'un de ces ethnies parce que je trouve que dans la vie non urbaine, les cultures et les rituels sont beaucoup plus vivants. Moi, je suis né à Téhéran, mais j'ai des origines de Gilan. Mon père, il vient de Rasht. C'est une ville au nord d'Iran, très beau, un peu comme Rennes. Une des raisons que j'aime bien cette ville, c'est que ça ressemble pas mal à Rasht.
Et dans cette région, d'où vient votre père, on y trouve quelle culture? Il y en a plusieurs qui sont présentes?
À Gilan, il y a des Gilles qui habitent, il y a des Taleshi, je pense, qui habitent. Il y a pas mal des ethnies différentes. Et à côté, il y a Mazandaran, c'est une autre province. Mais c'est un peu comme, je sais pas, comme Finistère et Haute-Bretagne, ses voisins. Et là, par exemple, là, on voit ces deux photos au fond.
On peut regarder.
Ouais. Là, ça vient de Mazandaran. En Guilan, ils ont à peu près les mêmes tenues aussi et même rituels. Mais par exemple, là, on voit, il n'y a aucun rapport avec cette photo où les Arabes d'Iran, ils sont en train de danser.
À chaque fois, les tenues sont différentes,
le paysage est différent. Là, on voit les montagnes, là, on voit des palmiers. Là,
on est dans un village.
On voit l'humidité.
Ah oui, sur les murs.
C'est ça. En fait, finalement, l'Iran est un pays où on a un peu tout. On a un très, très grand désert. On a des grandes forêts au nord. On a le golfe Persique au sud. On a la mer Caspienne au nord. Donc finalement, au niveau de nature, il est très riche. Mais malheureusement, il est situé dans un jeu politique où ça se passe beaucoup de choses. Et donc, c'est dommage.
Et en termes de surface du territoire, si on compare à la France,
c'est... Je pense que c'est trois fois plus que la France. Il y a 85 millions d'habitants, je pense, en Iran. Pour la clôture de cette exposition, on est content de présenter un concert de duo piano et ney de Bardia Sadrenouri et un grand maître de ney qui va arriver de Paris demain, Massoud Jahed, qui est, je pense, en asile en France depuis quelques années. Et c'était lui-même qui a fait, la première publication de Voix de femme en Iran. Après, il y avait des condamnations pour ça, mais on essaie en fait de faire venir des musiciens, des artistes qui sont libres à l'esprit, qui sont ouverts à faire des nouvelles choses. Et c'est pour ça qu'on est content de présenter le concert Neyestan le vendredi soir à 20h à la Maison internationale de Rennes. Donc vous pouvez prendre toujours vos billets sur Hello Asso en tapant Hello Asso Guillard, ainsi que vous pouvez venir sur place et prendre vos places sur place.
Il faut dire ce que c'est le ney.
Ney, en fait, c'est un sort de flûte qui vient d'Iran. On le met entre les dents. C'est un peu différent. Le son, surtout, il a un son qui nous fait penser à montagne. Et moi, j'adore cette son-là.
Au piano, d'après le nom de famille, c'est quelqu'un de votre famille.
C'est ça. En fait, c'est mon père. Lui, il est pianiste, mais il est ingénieur aussi. Hein. Donc, il a toujours alterné entre son passion, qui était l'art et de la musique, et son profession. Mais son passion était toujours la musique, l'art. C'est pour ça, tout ce qu'il gagnait dans son profession, il ramenait dans son passion. Surtout quand on était en Iran, il avait l'habitude de faire des actes culturels, des fois même gratuits, pour donner cette... message que la culture en Iran est toujours vivante, parce que finalement c'est pas si simple que ça. Il faut passer par plein d'organismes différents pour avoir une simple autorisation pour se faire présenter en concert, en festival et tout ça. C'est pas si simple.
Et puis évidemment, là, en ce moment, il y a cette actualité terrible donc, d'un rappeur qui a été condamné à mort pour avoir soutenu dans ses textes le mouvement Femme, Vie et Liberté en Iran. Je voulais vous demander comment vous perceviez ce mouvement-là depuis Rennes, où vous êtes aujourd'hui.
L'année dernière, nous, on a organisé un concert en soutenant les peuples iraniens et le mouvement Femme, Vie et Liberté. Je pense que c'était en octobre 2022 à Rennes 2. C'était un concert que moi j'ai fait avec Soroush Kamalian, Niosha Wali, Alma Oskoué et Asman Savanouri, ma soeur. On a présenté un programme pour soutenir notre peuple, parce que finalement, l'artiste, pour moi, doit être accessible à son peuple et sensible à des questions de son société. Moi, je voyais que les étudiants, ils avaient beaucoup de problèmes l'année dernière, surtout mental, moral, parce que il y avait plus de connexion à l'internet, on n'arrivait pas à se joindre avec nos potes en Iran. Il y avait des gens qui étaient dans la rue, nos amis qui étaient dans la rue. Donc, c'était assez compliqué. Donc, pour se calmer un peu, nous, on a fait ça et on avait pas mal de bons retours. C'était chouette. En fait, moi, je pense. Que se battre contre la répression, c'est pas une action qui marche tout de suite, c'est un acte qui doit se durer, et au fur de la mesure, ça va changer. Et là, pour Too Much Salehi, dont tu as parlé, Lucie, et bah, c'est vrai qu'il est condamné, je pense, à mort. Et j'espère, avec tout mon corps, que ça se fait pas. Parce que il n'a pas fait.
Il a écrit des chansons. Quoi.
Il a écrit des chansons et condamné à mort. C'est quelque chose qui est expiré depuis des années. Et donc. Moi, j'espère que cette situation change.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste tu pries. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. De juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme écrasés sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira: elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Français sera bien content d'avoir trouvé du travail. Il fait froid dans le monde. Il fait froid. Il fait froid.
Brigitte Fontaine, comme à la radio. C'est le morceau que vous venez d'entendre. C'était ma sélection musicale, un titre à retrouver sur l'album du même nom qui est sorti en 1969. C'était alors le troisième disque pour la morlaisienne Brigitte Fontaine et Areski Belkacem. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale, une émission qui vous tend son micro si vous avez des actions ou des événements à annoncer aux auditeurs, tant que c'est dans le champ de l'information locale, que ce n'est pas à visée purement lucrative, qu'il s'agisse d'environnement, de féminisme, de vie rurale ou étudiante, n'hésitez pas à m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et ensuite, je reprends contact avec vous pour vous proposer un échange au micro ici en studio, pourquoi pas un reportage sur le terrain pour capter de jolies ambiances à vos côtés. Et on peut aussi l'annoncer sous forme de recommandation du jour, et c'est l'heure. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils, souvent d'événements à vivre près de chez vous, aussi parfois des idées lecture, podcast ou documentaire. Et demain, 1er mai, c'est la traditionnelle fête du travail. Solidaire 35 et l'intersyndicale appellent donc les citoyens à se mobiliser pour un 1er mai social, écologiste et solidaire, et ce dans une perspective internationale. La manifestation rennaise, elle partira du quartier Clonay sur les coups de 10h30 avec un banquet qui est prévu sur le mail François Mitterrand à 12h30. On y retrouvera Alternatiba et les soulèvements de la terre avant une manifestation à partir de 14h pour la paix, contre l'austérité et l'extrême droite. Il y a du boulot. Des rassemblements sont également prévus à Saint-Malo, Fougères et Redon dans la matinée. Le 1er mai à Rennes, c'est aussi la fête de la paresse qui fait un pied de nez à la fête du travail. Direction la rue Saint-Malo de 11h à 22h, une rue qui va se transformer en zone piétonne et très animée. Tout au long de l'après-midi, on retrouvera des fanfares, des animations enfants, un atelier fresque collective et puis plusieurs concerts de 14h30 jusqu'en soirée. Il y aura le duo rock Gustave, un DJ set de Monster Bull and the Bastard, ERDF qui joue l'hommage à AC/DC ou encore la musique des mondes de Gondawa. Et il y aura évidemment, c'est le principe, de quoi manger et de quoi boire sur place. C'est terminé, une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.